Lutte de classe, numéro 144, mai 2012. L'élection de Hollande et ses conséquences possibles dans le contexte de la crise économique. Les commentateurs n'ont pas lésiné sur les superlatifs pour parler de l'événement historique que serait l'élection de Hollande à la présidence de la République. Pensez donc, c'est la première fois qu'un candidat du Parti socialiste accède à la présidence depuis l'élection de Mitterrand en 1981, avec, dans cet intervalle de 31 ans, le triste épisode du candidat socialiste Jospin qui, en 2002, après 5 ans à la tête du gouvernement, s'était tellement déconsidéré qu'il fut éliminé dès le premier tour en cédant à Le Pen la place qu'il convoitait au deuxième tour. Que l'événement soit historique pour les naïfs et pour ceux pour qui l'histoire se réduit à leur ambition personnelle, soit. Il l'est assurément pour, entre guillemets, les éléphants du Parti socialiste qui rongent leurs freins depuis longtemps et pour leur clientèle. Il l'est encore pour tout ce petit monde dont la carrière est due à ses liens avec le pouvoir politique, par exemple les patrons des entreprises nationalisées. Mais pour l'écrasante majorité de la population, sûrement pas. Et pas seulement parce qu'il est évident pour tout le monde que, dans une situation marquée par la crise économique et les soubresauts financiers, les épisodes électoraux ne sont que des épiphénomènes. Il est patent que les dirigeants politiques ne maîtrisent rien dans cette situation économique, que leur étiquette n'y change rien et que toute leur agitation n'est que du faux-semblant. De plus, dans le cadre de l'élection de Hollande, même sur le strict terrain politique, il ne s'agit pas d'un glissement à gauche. Hollande a su chevaucher l'anti-sarkozisme ambiant et compléter les voix de l'électorat de gauche, minoritaire dans le pays, par d'autres venant du centre, voire de l'extrême droite. Mitterrand déjà était arrivé à la présidence non pas en tant qu'expression et encore moins point culminant d'une poussée politique vers la gauche. Au contraire, son arrivée au pouvoir fermait définitivement la période post-68arde. Mais, après 23 ans de pouvoir de la droite, que mai 1968 n'avait pas interrompu mais conforté sur le plan électoral, Mitterrand avait suscité des illusions qui s'appuyaient de surcroît sur un programme électoral à côté duquel celui de Mélenchon est à l'eau de rose. Rien de tel avec Hollande. Tout ce qu'on peut dire de son succès électoral, c'est qu'il était là au bon moment dans un contexte où Sarkozy était rejeté pour toutes sortes de raisons tout à fait contradictoires et que, de plus, le candidat socialiste a eu la chance de sa vie avec, entre guillemets, les aventures de Strauss-Kahn. Si son élection est historique, c'est que l'histoire passe décidément par de bien étranges voies. De par la façon dont elle s'est déroulée, l'élection de Hollande n'a pas été un événement historique. Elle peut cependant le devenir, en tout cas en tant que repère chronologique, tout à fait indépendamment des faits et gestes de Hollande. Le fait que Hollande arrive au pouvoir, ce candidat entre guillemets normal d'une gauche entre guillemets normale, c'est-à-dire incapable même de susciter des illusions dans l'électorat populaire, peut n'être que l'expression ultime de l'évolution réactionnaire des choses. Mais le simple fait qu'il se dise socialiste, si peu que cette étiquette puisse signifier aujourd'hui quant à ses liens avec le mouvement ouvrier, peut changer les données politiques et être à l'origine d'une nouvelle phase de l'évolution dans le sens réactionnaire. Mais l'histoire de cette nouvelle phase ne sera pas écrite par Hollande, ni même par le Parti socialiste s'il obtient une majorité aux élections législatives. Elle sera écrite par l'évolution de la crise elle-même. La gauche au gouvernement dans un contexte de crise. Bien qu'elle ait déjà entraîné des changements considérables dans les conditions d'existence de la classe ouvrière, la crise économique en cours n'a peut-être pas encore connu sa phase la plus grave. Rappelons que la précédente grande crise, celle qui avait suivi l'effondrement bancaire de 1929, s'était traduite par un recul de la production qui avait atteint près de 50% dans les deux pays capitalistes les plus puissants de l'époque, les États-Unis et l'Allemagne. Même en France, bien que moins atteinte probablement en raison de son retard économique, de l'importance alors de l'agriculture dans l'économie et de la paysannerie dans la société, le recul avait été important. Aucune crise économique n'est certes la copie de la précédente. Et, dans cette économie irrationnelle et anarchique, il n'y a pas de régularité même dans le déroulement des crises. On peut toujours imaginer que, comme le répètent les dirigeants politiques au pouvoir, le plus grave est derrière nous. Mais il faudrait être très naïf pour les croire. Les économies des grandes nations capitalistes tournent au ralenti quand elles ne virent pas à la récession. Et, surtout, il y a toujours l'instabilité financière, ces masses colossales de capitaux qui ne s'investissent pas dans la production et qui sont censées rapporter du profit, au moins par les opérations financières. Une situation qui a déjà engendré bien des soubresauts financiers et, en particulier, le grave soubresaut de septembre 2008, marqué par la faillite de la banque Lehman Brothers, qui a menacé d'aboutir à l'effondrement du système bancaire et auquel les États ont pu encore faire face en s'endettant à mort. Mais maintenant, ce sont les États eux-mêmes et leurs dettes qui font l'objet de spéculations avec une ampleur sans précédent. Personne ne peut s'attendre à ce que Hollande puisse y faire face, et personne ne s'y attend. Tous les hommes de pouvoir s'y sont cassés les dents, ceux des petites nations emportées dans la tourmente, comme la Grèce, en perdant tout crédit. D'autres, les Zapatero ou Sarkozy, en perdant leur place. Si l'actuel cours des choses se poursuit, c'est-à-dire si ce sont les préoccupations financières qui continuent à dominer, le montant de la dette servira de prétexte pour des politiques d'austérité de plus en plus virulentes. En France, l'austérité de gauche remplacera l'austérité de droite. Pour les classes populaires, que l'austérité vienne de la droite ou de la gauche ne changera pas grand-chose sur le plan des conséquences matérielles. Mais, sur le plan des conséquences politiques, cela recèle de nouveaux dangers. Car le simple fait que ce soit un gouvernement de gauche qui prenne les mesures d'austérité profitera inévitablement à la droite et à l'extrême droite. La droite, dans l'opposition, ne se gênera pas pour imputer la responsabilité de toute mesure d'austérité voulue par la finance, non seulement au Parti socialiste au pouvoir, mais aussi, bien plus largement, aux syndicats, entre guillemets, trop revendicatifs, aux, entre guillemets, fonctionnaires qui coûtent cher, au coût de la main-d'œuvre, c'est-à-dire au montant des salaires et des cotisations, au manque de compétitivité des entreprises du fait que les travailleurs ne travaillent pas assez et exigent beaucoup, etc. Que l'on se souvienne sous quel angle Sarkozy a attaqué le candidat socialiste pour sa proposition de créer des emplois supplémentaires dans l'enseignement. Ce serait la preuve que Hollande est incapable de résister aux exigences des syndicats d'enseignants. Toute cette démagogie destinée à cette petite bourgeoisie possédante, si nombreuse dans ce pays, consolidera le poids électoral de la droite et renforcera en son sein le poids de l'extrême droite. Plus grave pour les travailleurs, cela entretiendra un climat hostile non seulement aux syndicats, aux organisations plus ou moins liées au monde du travail, mais plus largement aux travailleurs en général, à commencer bien entendu par les travailleurs immigrés. L'exemple de la Grèce montre comment, dans cette situation de crise, avec l'impréparation du mouvement ouvrier organisé, les choses peuvent aller vite. Il a suffi que les plans d'austérité imposés à la Grèce par les puissances dominantes d'Europe déconsidèrent les grands partis qui se relayaient au pouvoir pour qu'un pantin aussi odieux que ridicule, à la tête du parti Aube Dorée, qui, aux élections précédentes, était loin de 1%, se retrouve propulsé avec 7% des voix sur le devant de la scène politique, envoie des députés au Parlement grec et affiche ouvertement sa prétention d'expulser tous les immigrés et de mettre au pas la classe ouvrière. Là encore, l'histoire ne se copie pas forcément à l'identique d'un pays à l'autre, mais la crise peut faire surgir les mêmes monstruosités ici, en France. Les menaces politiques contre la classe ouvrière. Cela signifie que, avant même que la classe ouvrière soit en situation d'imposer à la bourgeoisie les mesures indispensables pour défendre ses conditions d'existence matérielles, elle sera peut-être mise devant une situation qui nécessitera son intervention politique. Car il ne faut pas se leurrer. Ce ne sont pas la démagogie verbale et les rodomontades d'un Mélenchon qui pourront arrêter une éventuelle montée de l'extrême droite virulente, ni même contrecarrer l'agitation anti-ouvrière de la droite. Pour le moment, l'ambition de l'extrême droite, en tout cas telle que l'expriment ses dirigeants, est de lever l'ostracisme qui la frappe de la part de la droite parlementaire, de faire élire des députés et, si l'UMP est déchirée par des rivalités de chefs pour prendre la succession de Sarkozy, de lancer une OPA sur l'ensemble de la droite. malgré les déclarations des chefs de l'UMP qui continuent à exclure toute entente globale avec le parti d'extrême droite, de multiples tractations locales sont de toute évidence en cours. Sarkozy parlait naguère, entre guillemets, d'une droite décomplexée. Un certain nombre de députés de l'UMP sont d'autant plus décomplexés à l'égard du Front National que le candidat local de celui-ci menace d'une triangulaire au deuxième tour. Jusque-là, on en est cependant aux habituelles manœuvres du système parlementaire. Mais personne ne peut écarter l'éventualité que, dans le sillage du Front National ou en son sein, apparaissent des courants plus radicaux, prêts à passer de la parole aux actes et à s'en prendre physiquement aux travailleurs immigrés, puis aux mouvements ouvriers organisés, à ses militants et, par là, à l'ensemble des travailleurs. Et, dans une telle éventualité, la force de l'extrême droite ne peut être arrêtée que par une force opposée, mais qui se place sur le terrain des intérêts matériels et politiques de la classe ouvrière. En d'autres termes, lorsque la classe ouvrière sera capable de se mobiliser non seulement pour imposer ses revendications matérielles, pour défendre ses conditions d'existence face à la crise, mais aussi pour défendre ses intérêts politiques et, par là même, pour offrir une perspective à la société face à la faillite de l'économie capitaliste et à la décomposition de la société bourgeoise. Le tournant vers, entre guillemets, la croissance. L'évolution des choses peut cependant prendre une autre voie. Des infléchissements apparaissent dans le discours d'un nombre croissant de dirigeants politiques et de porte-voix de la classe capitaliste autour de la nécessité d'une politique de croissance. Il devient évident que les sommes extravagantes consacrées au remboursement de la dette et les politiques d'austérité qui en découlent ajoutent de la crise à la crise, c'est-à-dire restreignent encore plus un marché qui est déjà stagnant. Des banquiers, des économistes en vue, en fouillant dans le précédent de la crise de 1929, sont en train de tirer des oubliettes Keynes et la politique keynésienne, à savoir une politique d'intervention plus massive de l'État, susceptible de favoriser la consommation soit directement, la prime à la casse en est un exemple, soit indirectement par un étatisme accru pour relancer certaines activités économiques, notamment des programmes de grands travaux étatiques. Une politique qui, sur le plan monétaire, serait inflationniste. Nous n'insisterons pas ici sur la difficulté de mener cette politique dans le cadre de la zone euro, qui dispose bien d'une seule et même monnaie, l'euro, mais qui est composée de 17 États avec 17 dettes publiques différentes et 17 politiques économiques à coordonner. Si l'intérêt des plus puissants groupes capitalistes pousse dans ce sens, ils trouveront bien une solution technique, quitte à imposer aux plus faibles, avec plus de brutalité qu'ils ne l'ont fait à l'égard de la Grèce, la loi des deux puissances dominantes de la zone euro. Un infléchissement dans ce sens ne viendrait certainement pas de l'efficacité du discours de Hollande qui en a parlé pendant la campagne, ni de sa petite personne, mais d'un infléchissement de la politique de la classe capitaliste elle-même. S'il se réalise, cet infléchissement ne serait pas plus favorable à la classe ouvrière que la politique d'austérité et de restriction des dépenses. Une politique inflationniste est certes une façon plus indolore en apparence de faire payer les classes exploitées, mais c'est une façon de les faire payer quand même. Qui dit inflation dit diminution permanente du pouvoir d'achat des catégories sociales qui, comme les salariés, ne sont pas maîtres de leurs revenus. Mais une orientation dans ce sens, même si elle se faisait, devrait s'enraciner dans la situation présente, marquée par l'endettement faramineux des États. Les créanciers ne seront pas enclins à abandonner leurs créances sur l'autel de la croissance. D'autant moins que ceux qui voudraient que les États relancent le marché sont les mêmes que ceux qui encaissent les intérêts de la dette. Le plus probable est que les classes exploitées auront droit aux deux. On leur imposera des sacrifices, c'est-à-dire des mesures d'austérité en prétextant la dette, tout en rognant leur pouvoir d'achat avec l'inflation. Les conséquences sociales et politiques pourraient être les mêmes et renforcer la droite et l'extrême droite avec un langage de plus en plus anti-ouvrier. Pendant la grande crise des années 30, ce type de politique était plutôt le fait de la gauche au sens large, des démocrates aux États-Unis, des sociaux-démocrates en Europe. Encore que la politique économique de Hitler différait du New Deal de Roosevelt, moins par son contenu que par sa violence contre la classe ouvrière. La question du parti. Quelle que soit la voie empruntée par la bourgeoisie face à la crise de son économie, elle reposera sur la violence, au moins économique, contre la classe ouvrière. La classe ouvrière n'est, pour le moment, pas armée pour se défendre. Bouleverser ce rapport de force entre la classe ouvrière et la grande bourgeoisie nécessite un haut degré de combativité, mais aussi un haut degré de conscience. Et qui dit conscience ouvrière dit parti pour l'incarner. Le courant communiste révolutionnaire est trop faible et trop en retard pour être à la hauteur des circonstances. Mais, là encore, les choses peuvent aller très vite si ce courant n'abandonne pas ses idées et s'il les défend avec assez de fermeté pour que les travailleurs, poussés à la lutte pour défendre leurs conditions matérielles, se tournent vers lui. Voilà pourquoi, dans les élections législatives qui viennent, malgré le recul des traditions, des idées, des valeurs de lutte de classe, où, précisément, à cause de cela, nous préférons nous situer sur ce terrain comme nous l'avons fait pendant l'élection présidentielle. Les élections législatives sont, plus encore que la présidentielle, un épiphénomène malgré les efforts pour le dramatiser de part et d'autre de l'échiquier politique. Chercher dans ces conditions des alliances à l'extrême gauche, dans l'espoir de recueillir quelques fractions de pourcentage de voix en plus, au prix de concessions multiples, n'a pas de sens. Si les liens entre le mouvement ouvrier et la gauche deviennent au fil du temps un souvenir historique, il en est plus encore ainsi pour ce qui est de l'identification entre l'extrême gauche et le communisme révolutionnaire. Par un tout autre cheminement historique, mais fondamentalement pour la même raison, la survie de l'impérialisme, la gauche française n'en finit pas de se rapprocher de ce qu'est le Parti démocrate aux États-Unis, c'est-à-dire un parti qui, tout en bénéficiant d'une certaine sympathie dans les milieux populaires, permet d'assurer l'alternance en jouant pleinement le jeu des institutions de la bourgeoisie. Les petites alliances électorales, les additions arithmétiques, ne sont certainement pas à la hauteur des circonstances et de la nécessité de faire surgir un parti communiste révolutionnaire authentique, lié au combat de la classe ouvrière et déterminé à les pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la révolution sociale et la prise de pouvoir par la classe ouvrière. La question du parti ne sera certes pas résolue par l'activité d'un seul petit groupe. Elle ne le serait pas plus par l'addition de plusieurs petits groupes aux idées disparates. À infiniment plus forte raison, elle ne le serait pas par l'alignement de tous ces petits groupes d'extrême gauche derrière un courant réformiste comme celui incarné par le Front de Gauche, peinturluré de couleurs assez plaisantes pour seconder, dans une semi-opposition, le Parti socialiste au pouvoir en cas de problème avec le monde du travail, ou, le cas échéant, de le relayer, mais toujours dans le cadre du système institutionnel. Le Parti communiste révolutionnaire surgira lorsque, mise devant la nécessité de faire face à l'offensive de plus en plus virulente de la bourgeoisie sur le terrain matériel comme sur le terrain politique, la classe ouvrière fera surgir de ses rangs des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes prêts à consacrer leur existence à l'émancipation de leur classe, à la révolution sociale. Les communistes révolutionnaires peuvent et doivent jouer leur rôle lorsque la lutte de classe produira une telle situation. Mais la situation ne dépend pas fondamentalement d'eux. Ce qui dépend d'eux, et d'eux seuls, c'est de transmettre les idées et le programme communiste révolutionnaire. Et cela commence par le refus de les brader pour de dérisoires compromis afin de totaliser quelques pourcents de plus dans le cadre d'une élection pour une future assemblée Croupion. 11 mai 2012.